Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Michel Onfray, bonjour.
Bonjour.
Philosophe essayiste, dernier livre, La vengeance du pangolin, aux éditions Robert Laffont. Aujourd'hui, publication du deuxième numéro de votre revue Front Populaire, consacrée à ce que vous appelez l'état profond, le vrai pouvoir à abattre. On va commencer avec la crise sanitaire, Michel Onfray. Ce virus, dites-vous, est révélateur des folies de notre époque. Je vous lis, impéritie de l'État français, faiblesse extrême de son chef, impuissance de l'Europe de Maastricht, sottise de philosophie, qui invitait à laisser mourir les vieux pour sauver l'économie, cacophonie des scientifiques, volatilisation de l'expertise, agglutination des défenseurs du système dans la haine du professeur Raoult, qui est interviewé d'ailleurs dans le deuxième numéro de votre revue, émergence d'une médecine médiatique, indigence du monde journalistique. Qu'auriez-vous fait ?
Écoutez, moi, le 28 janvier, j'étais sur un plateau de télévision, il y avait des médecins, il y avait des chroniqueurs politiques, il y avait Jean-Michel Apathy notamment, et j'ai fait savoir, à partir de ma simple expertise, qui est celle du citoyen, qui est celle qui s'informe de ce qu'on donne comme information toute simple à la télévision, je veux dire, 13 millions de gens qui étaient mis sous cloche dans un régime chinois sous prétexte que le virus était dangereux, je me suis dit, c'est une information. La Chine se moque un peu de perdre 1000, 10 000, 20 000 personnes. C'est un régime qui se moque absolument du nombre de Chinois. Et je me suis dit, si effectivement ils sont dans cette logique-là, c'est qu'il y a péril en la demeure. Donc on commence par ne pas faire ce qu'a fait le président de la République, c'est-à-dire d'aller chercher les expatriés, faire de telle sorte que les gens qui s'occupent du rapatriement puissent repartir.
Mais peut-être s'est-il appuyé sur l'expertise de certains médecins qui parlaient de simples grippettes.
Oui,
vous vous souvenez de cela,
oui,
dont le professeur Raoult d'ailleurs.
Moi, j'étais sur un plateau où il y a quelqu'un qui disait effectivement que ce serait une grippette.
Une grippette.
Oui, c'était le mot qu'il utilisait. C'était un médecin. Et j'ai fait savoir que ça m'étonnerait que ça soit une grippette parce que je pense que les Chinois ne traitent pas une grippette de cette manière-là.
Bien, vous portez un masque au quotidien.
Oui, bien sûr.
Non, parce que votre liberté individuelle n'est pas entravée, Michel Onfray. Non, je dis ça parce que vous entendez tous ceux qui sont anti-masque.
Oui.
Vous les comprenez ou...
Ah non, mais vous savez, je pense que...
Il est avec vous. Alors, je vous ai vu arriver avec.
J'ai mon masque, voilà. Et puis j'ai quelque chose qui est beaucoup plus dangereux pour la liberté. Ça s'appelle un téléphone portable. Donc, je pense que tous ces gens qui estiment que leur liberté individuelle est bafouée parce qu'effectivement, on leur demande de porter un masque, ils sont pas gênés du tout par le fait qu'ils utilisent un téléphone qui permet un traçage, qui permet de savoir qui ils sont, ce qu'ils font, etc., etc. Tout ça va dans le cloud. Tout ça permet un traçage intellectuel, numérique, publicitaire, capitaliste d'une manière générale. Et je trouve qu'il passe à côté vraiment des vrais problèmes.
Lorsqu'un vaccin sera disponible, on en parle beaucoup, est-ce que vous ferez vacciner ?
Moi, je suis pour le vaccin. Je suis contre ces gens qui estiment que le vaccin ne sert à rien, qu'il est dangereux, etc., etc. Quand je parle de l'impéritie, j'aurais pu aussi ajouter celle des citoyens, d'une certaine manière. Moi, j'ai été un élève de l'école laïque et républicaine, et on m'apprenait à cette époque-là que Pasteur avait trouvé un vaccin. On apprenait l'asepsie, l'antisepsie, comment ça fonctionnait, ce qu'étaient les microbes, comment avant il y avait la génération spontanée. On avait l'impression qu'avec un tas d'ordures d'un seul coup allait spontanément naître le mal, etc. Et puis d'un seul coup, on est sur une pente régressive où les gens estime que Pasteur n'existe pas, que le vaccin est dangereux, c'est-à-dire qu'on marche sur la tête. Donc oui, je pense que le vaccin, le masque permet pas seulement de se protéger, mais surtout de protéger autrui. Le vaccin, c'est exactement la même chose. Tous les ans, je me fais vacciner pour la grippe.
Bien. Est-ce que nous sommes chanceux de vivre en France ? Je vous dis ça parce que je regardais ces chiffres que j'ai trouvés vraiment très, très intéressants. 2019, dépenses de santé en France par habitant, 3104 euros. Le coût pour la sécurité sociale, 2427 euros. Pour les mutuelles, 416 euros. Pour l'État, 47 euros. Reste à charge pour les bénéficiaires des soins, 214 euros. Y a-t-il un pays au monde qui offre une telle solidarité ?
D'abord, je ne connais pas tous les pays au monde et je ne connais pas tous les systèmes de santé. Ce que je vois, moi, concrètement, c'est des gens qui ont des difficultés à changer de lunettes, qui ne peuvent pas s'appareiller parce qu'ils sont sourds, ils n'ont pas, ou disons, ils sont malentendants, des gens qui ont des problèmes de dents, qui, quand ils vont se faire soigner les dents, sont obligés de choisir les choses les moins chères, donc les moins jolies d'une certaine manière, pas possibilité pour eux d'acheter une couronne en céramique. Donc je veux bien qu'on dise, regardez, bien sûr, par rapport au Rwanda-Burundi, probablement
non,
c'est pas mieux. Même dans les pays européens, je pense que, oui, en même temps, vous avez raison, quand on a un cancer aujourd'hui, on est bien soigné, avec des médicaments qui coûtent terriblement cher, et ils sont prescrits. Donc oui, bien sûr, ça se passe très bien. Mais il y a une fraude qui est considérable, et pour un certain nombre de choses dont je vous parlais tout à l'heure, c'est problématique. Et puis, vous savez très bien aussi, vous comme moi, que si on a vraiment un problème, on peut avoir un rendez-vous parce qu'on a un copain qui a un copain qui va nous obtenir un passage chez l'ophtalmo, chez un spécialiste. Alors que quelqu'un qui voudra prendre son téléphone pour appeler un spécialiste, on lui dira, vous avez un problème de vue, d'accord, rendez-vous dans 6 mois.
Michel Onfray, Front Populaire, votre revue, c'est le deuxième numéro, très politique. Est-ce que cette revue a pour objectif de fédérer tous les souverainismes ? Le souverainisme, d'ailleurs, c'est quoi ? C'est une doctrine politique qui est ni de droite ni de gauche ?
Oui, c'est une évidence oui. De bon sens, je dirais. Vous savez, quand on prend la métaphore d'une voiture qui est en train de perdre le contrôle, c'est juste reprendre le contrôle de la voiture. Tout le monde, ou presque, est convaincu du fait que ça se passe pas très bien en France. On a vraiment l'impression que sur tous les sujets, sur tous les terrains, l'éducation, on a parlé un petit peu de la santé, la politique, etc., c'est pas terrible. Le souverainiste, c'est celui qui dit, mais si nous reprenions le volant, justement, pour éviter d'aller dans les décors. C'est pas plus que ça. C'est vraiment pas plus que ça.
Mais ni de droite, ni de gauche.
C'est aussi bien de droite que de gauche.
On a dit. Mais vous dites, vous êtes clair, vous dites politiquement, c'est ni Macron, ni Le Pen.
Oui, voilà.
Ni Macron, ni Le Pen.
Oui.
Alors quel est votre objectif ? Reconstruire la gauche ?
Non, reconstruire le peuple, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a...
Reconstruire le peuple ?
Oui, parce que le peuple a été pas mal détruit, pas mal maltraité, je dirais. Mmh. On ne lui apprend plus, justement, à lire, à écrire, à compter, à penser. Comment fait-on pour en arriver aujourd'hui à croire que Pasteur a dit des sottises, que les chambres à gaz n'ont pas existé, que la Terre est plate, pourquoi pas ? Enfin, toutes ces choses qui font qu'il y a un délire complet. Donc... il y a eu une époque où le peuple était rempli d'un bon sens, parce que c'était le fameux bon sens populaire. La population était essentiellement rurale à l'époque. Donc on avait des anciens qui vous apprenaient des choses que les anciens leur avaient transmises, etc. Et vous aviez 1000 ans de sagesse millénaire chez les paysans. Et puis vous ajoutiez à ça la sagesse de l'école républicaine. Justement, on apprenait lire, écrire, compter, penser, mais en même temps ce qu'était la liberté, l'égalité, la fraternité. Toutes ces choses-là ne sont plus apprises. C'est la télévision aujourd'hui qui tient la place de la culture.
Mais Michel Onfray, vous voulez créer un parti politique ?
Non.
Vous voulez, quel est l'objectif ? Parce que, très bien, Front Populaire, vous défendez des idées, parfait, mais vous ne voulez pas fonder de parti politique. Parce que vous dites, il faudra un candidat à la présidentielle, un candidat qui défende ces idées.
Alors, l'objectif n'est pas les présidentielles. L'objectif, c'est de faire une revue dans un premier temps qui est de réfléchir, de penser, et puis de, comment faire, désintoxiquer un certain nombre de pensées. Par exemple, quand vous avez le souverainisme, c'est le nationalisme, c'est la guerre, etc. Nous avons voulu, avec le numéro 1, faire savoir que le souverainisme, c'était pas du tout ça. Si vraiment, il y a une jurisprudence Mitterrand, vous savez, le nationalisme, c'est la guerre. Si vraiment on réfléchit, si vraiment on fait de l'histoire et pas de l'idéologie, les guerres se sont constituées pour des empires, pas du tout pour des nations. Et d'une certaine manière, les nations étaient même des garanties contre le terrorisme des empires, d'une certaine manière. Donc on a une envie de dire dans chaque numéro, le souverainisme, c'est pas l'extrême droite, contrairement à ce qui a été dit beaucoup, c'est pas le fascisme, c'est pas le nazisme, c'est pas Vichy, c'est pas Pétain, c'est pas la litanie habituelle, mais c'est l'art de dire refaisons de la politique. Aujourd'hui, on ne fait pas de la politique, on fait juste, on laisse au marché faire ce qu'il veut.
Je vais revenir sur les marchés, l'État profond, le vrai pouvoir à abattre, Michel Onfray. Mais je reviens, vous allez présenter un candidat ou soutenir un candidat à la présidentielle ? Franchement.
Non, nous ne savons pas.
Non,
nous ne savons
vous
pas.
Vous ne savez
non,
pas.
Non. Mais
pourquoi vraiment. Est-ce que vous ne savez pas ?
Parce qu'il va se passer pendant 2 ans un certain nombre de choses. Est-ce que Marine Le Pen ira ?
Vous serez candidat, vous ?
Alors là, je suis content que vous me posiez la question, parce que là, j'ai gagné une caisse de champagne. J'ai parié que vous me poseriez la question, alors que j'ai 500 fois répondu que
je n'irai pas. Je vous pose la question, c'est normal, parce que la pensée évolue.
Non, la situation évolue. Elle évolue chez Roselyne Bachelot et chez Dupond-Moretti.
Oui, mais pas chez vous.
Chacun son boulot. Moi, non, je ne suis pas du genre, c'est pas le genre de la maison.
Donc vous ne serez pas candidat ?
Non, je ne serai pas candidat.
Bien, vous ne serez pas candidat,
mais... j'ai gagné une bouteille, une caisse de champagne.
Bravo, bravo. Vous dites ne pas avoir le fantasme de l'homme ou de la femme providentielle.
mais du peuple providentiel.
Oui, ouais. Du peuple providentiel.
Oui. Ouais. Il y a un vieux schéma, c'est pourquoi nous pensons dans ces revues-là.
Oui.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'un homme présidentiel? Pourquoi nous pose-t-on tout le temps cette question, serez-vous candidat au présidentiel, alors que je dis non à chaque fois?
Parce que c'est comme ça, la Ve République.
Non, c'est comme ça le journalisme. C'est pas la Ve République.
Non, Michel Onfray. Michel Onfray. Les hommes politiques ne rêvent qu'à ça, vous le savez bien.
Eh bien, je ne suis pas un homme politique. C'est pour ça que la différence se fait.
Donc, n'en rêvez pas.
Non, parce que je pense qu'on peut faire de la politique autrement. Différemment.
Oui.
On est dans un vieux schéma qui est le schéma chrétien. Au ciel, vous aviez un dieu, vous aviez des archanges, vous aviez des anges, etc. Une espèce de pyramide, etc. Mmh. Ce schéma, on l'a déplacé sur le terrain des hommes, c'est la cité des hommes et la cité de Dieu de Saint-Augustin, et il faut sur terre un roi. Jusqu'à la disparition de la monarchie, en 1792, la Révolution française nous débarrasse d'un roi, sauf que elle met qui à la place, d'une certaine manière, Robespierre, qui est un roi laïque, qui est un roi qui est sous le regard de l'œil de l'être suprême. Et là, on est dans cette logique du « donnez-nous un roi, donnez-nous un maître ». Michel Onfray, est-ce que vous ne voudriez pas être notre bon maître? Et je dis, mais pas du tout. Là, on a repris une phrase de la Boétie, là, soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Le peuple souverain, ça consiste à dire, vous avez des compétences de journaliste et vous savez bien mieux qu'un énarque ou qu'un polytechnicien ce qu'il faut faire pour changer le journalisme. C'est la même chose avec un artisan, avec un paysan, avec un agriculteur, avec une enseignante ou un enseignant, avec un médecin ou une infirmière. Nous croyons, je veux pas engager la totalité de l'équipe, mais un genre d'autogestion qui permettrait de dire, mais il faut que le pouvoir sache que, le peuple sache que le pouvoir c'est lui, que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc c'est pas un homme qui va arriver en disant mais moi j'ai toutes les réponses.
Donc une nouvelle république.
Oui,
sixième république, enfin sixième ou pas.
Si l'on veut.
Une nouvelle république.
Bien sûr, vous avez raison. C'est quelque chose qui ne serait plus jacobin, mais qui serait girondin. Donc
d'ailleurs sur le site de la revue, vous avez mis en place un cahier de doléances.
Oui.
Vous avez créé une association qui s'appelle Front Populaire et Compagnie, des réseaux populaires. Avec je reviens toujours sur l'objectif. L'objectif est politique, évidemment,
au sens noble.
Donner la parole au peuple, on est d'accord, lui donner, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, finalement.
Alors Jean-Luc Mélenchon, finalement. Il dit ça, il dit le contraire, il dit autre chose.
C'est ce qu'il dit sans cesse depuis la crise des Gilets jaunes.
Il a dit, donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai, je ne suis pas bien sûr que si on le lui donnait, il le rendrait vraiment. Et il a un passé pour lui qui est un peu impassif. Donc il y a plein de gens d'ailleurs qui sont des déçus de Mélenchon et qui ne le croient pas. Il y a une époque, il était plutôt, c'était Jaurès et le général de Gaulle, maintenant il est islamo-gauchiste, vous renvoie la bonne couverture de Charlie Hebdo cette semaine. Il y a un moment donné où Jean-Luc Mélenchon, il faut comprendre qu'après avoir été 25 ans le défenseur de Maastricht, il est aujourd'hui son pourfendeur, on voit bien qu'il c'est un carriériste. C'est un des derniers vieux de la politique. Et il est dégagiste, il devrait s'appliquer cette théorie-là à lui-même, parce qu'il n'est plus crédible. Il a eu un grand capital de confiance, il manque pas de culture, d'intelligence. C'est un tribun, il est malin, il est drôle. C'est un client médiatique, mais il devrait avoir... une idéologie, une pensée. Quand je dis qu'une idéologie, il en a, hélas. Mais je veux dire, des convictions.
Mais je vais prendre un exemple, l'immigration. Quand il dit, c'est une chance, l'immigration. Il se trompe, c'est ce que vous dites. Quand Marine Le Pen dit, c'est une catastrophe. Elle se trompe, c'est ce que vous dites. Ceux qui nous disent ni l'un ni l'autre se trompent aussi. Alors qui ne se trompe pas, vous?
Non, j'ai pas dit ceux qui disent ni l'un ni l'autre se trompent. J'ai pas dit ça. J'ai dit les deux se trompent. Oui,
parce que je pense qu'à
gauche, il y a cette idée que c'est une chance.
Mais non, vous avez dit ceux qui nous disent ni l'un ni l'autre se trompent aussi. Alors, ce que vous avez écrit. J'ai bien lu.
Oui, vous dites que c'est écrit sur votre feuille, mais je connais bien ma pensée, je vous assure.
Je suis un de ceux qui la connaissent le mieux,
et je vous assure que...
Je vais prendre un exemple
si je dis ni l'un ni l'autre, ça veut dire que ce que je dirais est une erreur aussi. Je ne peux pas dire que je vais vous annoncer des erreurs.
Je vais être dans le concret.
Oui,
je vais être dans le concret. Un bateau chargé de migrants demande à accoster dans le port de Marseille. Faut-il l'accueillir et accueillir tous les migrants qui sont à bord?
Alors, là, je pense qu'on est sur le point le plus petit et le plus infime de la question, et qu'il faudrait une question beaucoup plus générale, et qu'il faudrait une vraie politique de l'immigration.
Non, mais je vous pose une question précise.
Je vais répondre à vos deux questions.
Allez-y.
Et je pense qu'effectivement, l'immigration, on ne peut pas ne pas l'accueillir. C'est pas pensable de dire, on ferme les frontières, plus de migration, plus d'émigration, plus de migrants, plus d'immigrés, etc. Ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Donc, il faut faire avec. Maintenant, on fait avec comment? De quelle manière? Je pense que quand vous accueillez des gens chez vous, Vous les choisissez, ils viennent chez vous, il y a des règles, il y a des lois de l'hospitalité, et puis ils vont pas mettre le bazar complètement chez vous en estimant que puisque vous les avez invités, ils ont le droit de sauter sur les canapés, d'aller dans votre cave, de choisir les meilleures bouteilles si vous ne les avez pas choisies pour eux. Eh bien, je pense que c'est exactement la même chose. Il faut pouvoir montrer qu'on désire la France, qu'on aime la France, qu'on a envie de contribuer à la France. Et après, les gens, ils peuvent être noirs ou blancs, jaunes ou verts, ils peuvent être catholiques, protestants, musulmans, juifs ou je ne sais quoi, c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est que toute immigration qui permet de voir arriver des gens sur le territoire national en disant « nous avons envie de contribuer à ce qui fait l'art d'être français », pour utiliser l'expression de Macron, eh bien, ces gens-là sont évidemment les bienvenus. Par ailleurs, des gens qui refusent la règle du jeu, eh bien, alors, soit, effectivement, on ne les reçoit pas, regardez comment ça se passe en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, ce sont pas des pays fascistes, ou effectivement, il faut, ou même au Danemark, où il faut montrer qu'on a le désir, soit d'apprendre la langue française, soit de connaître la culture française, mais
donc,
de s'intégrer.
Quand on est réfugié enfant sur l'île de Lesbos, on doit montrer qu'on a le désir de venir en France.
Je vous dis qu'il y a...
Michel Onfray.
Il y a ça.
Est-ce
comme...
qu'on n'a pas, quand même, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre la mesure du monde? Vous comprenez ce que je veux dire?
Non, mais vous faites de l'émotion.
Non, je ne fais pas de l'émotion.
Non, mais s'il s'agit de dire... Non, mais s'il s'agit de dire, alors vous allez laisser les enfants se noyer...
Est-ce que les enfants de djihadistes qui sont en prison dans les camps en Syrie, est-ce qu'il faut les accueillir en France?
Mais je vous réponds en vous disant qu'il faut des réponses politiques et globales. Nous n'avons pas de politique globale sur la question de l'immigration. On est là en train de dire, il y a un petit symptôme, on va vous soigner votre symptôme. Alors vous les accueillez, vous les accueillez pas. Je dis, mais on peut faire ça quand vous allez chez le médecin en disant, j'ai un petit truc là, soignez-moi ce bouton, je veux que le bouton disparaisse.
Rien n'est simple.
Si au contraire, si vous faites de la politique, vous dites, mais d'où vient ce bouton et voyons ce qu'on peut faire. Si effectivement nous avons la politique que nous avons avec les pays musulmans, avec la Turquie actuellement, et puis également avec les grandes puissances, c'est-à-dire avec la Chine, avec la Russie, etc., avec les États-Unis, il est normal que nous arrivions à des petites questions comme celle-ci. Vous me posez une petite question, je veux bien vous répondre. Mais je veux dire, si effectivement, et il faut accueillir les
petites
gens...
Petites questions.
Mais ce sont des petites questions, parce que les grandes questions sont des questions de politique étrangère. Si vous laissez effectivement la France participer à la destruction de la Libye...
En seule.
Mais pas seulement.
Aujourd'hui. Abandonnée par l'Europe.
Qui ça?
La France.
La Libye, vous voulez dire? Non, la France sur la question des rapports avec la Turquie. Mais il y a plus d'Europe aujourd'hui.
Plus d'Europe.
Vous l'avez fait savoir, le Covid l'a montré. Il y a plus de décision globale. Chacun y est allé de sa petite histoire.
Ça doit vous satisfaire, non?
Comment?
Vous n'êtes pas anti-européen.
Non, mais bien sûr que non. Mais tous les gens qui sont contre Maastricht ne sont pas anti-européens. Ils sont contre l'Europe de Maastricht parce qu'elle est libérale. Mais si cette Europe, elle était capable de parler d'une seule voix, moi je serais pour une Europe, l'Europe du général de Gaulle, elle me va tout à fait. C'est une Europe des nations. Si nous voulons éviter les enfants qui arrivent sur les plages et qui sont morts, souvenez-vous de ce petit garçon turc, parce qu'on nous a dit alors, vous voulez pas les accueillir les migrants, vous avez vu? Je dis ça, c'est de l'émotion. C'est le petit bout de la lorgnette, c'est la petite question. Moi je dis, si vraiment on répond à ces questions-là, on se dit, mais quelle est la politique de la France si nous voulons accueillir les gens, non pas sur des bateaux parce qu'ils auront eu les moyens de payer des passeurs en risquant leur propre vie, parce que ça c'est inacceptable, mais simplement en disant, on va faire un contrat avec vous, on va vous aider à venir, si vous voulez venir et si vous voulez faire partie du peuple français, il n'y a aucun problème, c'est ça la vraie réponse.
Michel Onfray, quand Noël Le Graët, le président de la Fédération Française, dit, quand un Black marque un but, tout le monde, tout le stade est debout, il n'y a pas ou peu de racisme dans le foot. Ça vous choque? Ça fait débat, cette phrase, ou pas? Vous pensez que ça fait débat?
Je ne sais pas trop répondre à cette question, parce que je ne connais pas le monde du football, mais je sais il n'y a pas de raison de dire que...
55% des Français, je passe, parce que je ne vois pas où est le débat, mais 55% des Français sont favorables à la peine de mort. Oui. Ouvrir le débat, dans tous les cas. Vous aussi, ou pas? Faut-il l'ouvrir, ce débat, ou...
Imaginez un philosophe qui ne voudrait pas rouvrir le débat. Qu'est-ce que ça voudrait dire, un philosophe qui veut fermer les
Donc
débats?
Donc un référendum d'initiative populaire, comme dit Marine Le Pen?
Alors, le problème, là encore, est un problème plus général que ça, c'est-à-dire pourquoi? C'est la question du philosophe.
Pourquoi
les gens veulent aujourd'hui restaurer la peine de mort? Parce qu'il y a un défaut d'autorité. Moi, je pense que c'est une mauvaise réponse à une bonne question. C'est-à-dire, on se dit, mais on fait quoi? Quand on voit tout ce que la télévision nous montre, en se disant, mais voilà, il y a des gens qui ont violé 9 personnes, qui sortent de prison et qui en violent une dixième, et puis qui tuent cette personne en question. On se dit, mais on pourrait résoudre le problème en lui coupant la tête, l'affaire serait réglée. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la peine de mort est une solution. Je suis abolitionniste, enfin plus maintenant, puisque la peine de mort, je suis pour le fait qu'on ne restaure pas la peine de mort. Mais je suis pour un débat, pour expliquer aux gens que je comprends qu'ils puissent vouloir restaurer la peine de mort quand ils se disent, mais quelle est votre réponse?
Et on demande aux Français de voter?
Alors, Condorcet, au XVIIIe siècle, a dit des choses très intéressantes sur la démocratie, en disant, le vote c'est formidable si les gens sont éclairés. Si vous êtes dans la logique du micro-trottoir, que vous descendez dans la rue, vous êtes pour ou contre l'art contemporain? Les gens vont dire, je suis contre, c'est pas de là, il y a mon petit-fils, mon petit-neveu qui fait la même chose, et puis ça se vend des millions, etc. Si vous dites, mais on va réfléchir, on va penser, on va permettre à des gens qui sont pour la peine de mort de s'exprimer, plutôt que de dire que ce sont des salauds, des racistes, etc., etc. Chacun va y aller de ses débats. Les gens sont assez capables, quand ils ont entendu des débats dignes de ce nom, de se faire une idée. On peut lire Beccaria, Des délices et des peines, on peut lire Camus, Réflexion sur la peine capitale, parce que je pense qu'il faut éduquer le peuple. Et ça ne se fait plus, ça ne se fait plus nulle part. Je dis, l'éducation du peuple, c'est terminé.
Bien, Michel, enfin, je termine sur le sujet du numéro 2 de votre revue, L'État profond, le vrai pouvoir à abattre. Le vrai pouvoir, c'est quoi? C'est le capitalisme qui tirerait les ficelles d'une grande machination internationale. C'est bien cela, hein, si je comprends. En fait, pour résumer, vous entrez en guerre contre ce capitalisme planétaire qui vend et qui loue tout. C'est cela?
Oui, c'est ça. J'ai failli gagner ma deuxième bouteille de caisse de champagne, mais
vous l'avez perdu, alors?
Non, pas encore, on va voir la deuxième. L'émission n'est pas finie.
Allez-y.
Mais non, je pense que le capitalisme, oui, bien sûr, fait la loi. Ça me paraît évident. Le capitalisme intéresse qu'il n'y ait pas de frontières. Est-ce qu'il n'y ait pas de nation? Est-ce qu'il n'y ait pas de culture nationale? C'est pourquoi il travaillait tout ça. Il intéresse qu'il n'y ait plus de sexe, plus d'hommes, plus de femmes. Est-ce qu'il n'y ait plus d'identité tout à fait particulière? Regardez quelqu'un comme Elon Musk. Il dit très précisément ce qu'il veut. Le projet du capitalisme aujourd'hui, c'est le transhumanisme. Et c'est un gouvernement planétaire. C'est pas moi qui suis dans ce genre de logique-là. Jacques Attali a écrit un livre qui s'appelle « Qui gouvernera le monde ?» Et il pose effectivement la question de la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, plus le transhumanisme qui permet d'acheter des ventres, de louer des ventres, d'acheter du sperme, de louer des utérus, de faire de telle sorte que vous avez vu, par exemple, qu'entre fin juillet et début août, on a dit, voilà, des enfants de 9 mois, pour des raisons psychosociales, si vous voulez, vous pouvez avorter. J'ai posé la question à des amis médecins, je dis, mais ça se passe comment? L'enfant avorte, on fait une piqûre, on l'euthanasie. On ne peut pas mieux faire pour expliquer qu'on veut... philosophie, on appelle ça réifier les choses, c'est-à-dire transformer les gens en objets. Et je pense que le capitalisme veut transformer tout en objet, et qu'il y a aujourd'hui, effectivement, un capitalisme planétaire qui veut réifier la totalité de ce qui existe.
Eh bien, merci Michel Onfray, vous n'aurez pas gagné votre deuxième caisse de champagne. Je ne savais pas que vous pariez, en venant ici, des caisses de champagne.
J'avais parié que vous me parlerez de complotisme pour la deuxième caisse. Parce
vous voyez
oui.
Donc, bien... on vous avait perdu. 8h55, merci. Merci Michel Onfray.